Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, Eric Manilakiza avec vous depuis le studio 9 de la Voix de l'Amérique ici à Washington DC. Au sommaire de cette édition du jeudi 6 juillet 2023 au Sénégal, un opposant est en garde à vue pour avoir mis en doute l'annonce de Macky Sall renonçant à briguer un troisième mandat en 2024. En Éthiopie, le gouvernement veut démanteler des unités paramilitaires constituées illégalement. Au Soudan, les tribus arabes du Darfour appellent à rejoindre les paramilitaires et à déserter l'armée. Afrique du Sud, 17 morts dans un bidonville minier après une fuite de gaz. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, est arrivée à Pékin pour tenter de stabiliser les relations sino-américaines. L'attaquant, star du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, Kylian Mbappé, en visite au Cameroun pour des œuvres de charité et un périple dans le village natal de son père. Et dans la Minute Écho, la mise en œuvre du programme d'assainissement pluvial des villes secondaires au Bénin pour lutter contre les inondations. Pour l'instant, le journal. Au Sénégal, Biram Souley Diop, un opposant, est en garde à vue après avoir publiquement mis en doute le retrait de Macky Sall de la prochaine présidentielle. Le président sénégalais a annoncé lundi qu'il ne briguait pas un troisième mandat en 2024. Yacouba Ouédraogo.
Biram Souley Diop, président du groupe parlementaire de la coalition de l'opposition Yewi Askanui et cadre du PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, a été arrêté mercredi après avoir mis en garde contre un possible revirement du chef de l'État. J'avertis les prochains candidats de l'APR, évitez de manger chez lui, évitez de boire son eau, il est capable de vous empoisonner et de dire « quand nous n'avons plus de candidats, je reviens » et de le faire à la Ouattara, prenez garde, a déclaré M. Diop mardi avant de présenter ses excuses. Selon Maître Moussa Sarr, son client est poursuivi pour diffamation commise par un membre de l'Assemblée nationale contre un chef d'État étranger, de nature à saper les relations diplomatiques de l'État et discrédit sur une institution de la République. La décision du président Macky Sall de ne pas se représenter a décrispé le climat politique. La condamnation à 2 ans de prison de l'opposant Ousmane Sonko avait provoqué au début du mois de juin de graves troubles au Sénégal.
La mission de l'ONU au Mali a regretté mercredi les propos d'un officier sénégalais basé à Sévaré qui accuse les militaires maliens d'entraver le travail de la mission diffusée dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. La MINUSMA se dissocie de sa déclaration qui ne reflète en rien la position de la MINUSMA, a-t-elle écrit sur Twitter. Vendredi, le Conseil de sécurité de l'ONU a mis un terme à la mission de maintien de la paix des casquets bleus, un retrait réclamé par Bamako qui se déroulera sur 6 mois jusqu'à la fin de l'année 2023. Le Niger a annoncé ce jeudi avoir lancé des distributions gratuites de milliers de tonnes de vivres à des paysans frappés par les mauvaises récoltes. Plus de 412 millions d'euros seront injectés dans un plan de soutien aux populations vulnérables, a déclaré à la presse un membre du cabinet du Premier ministre. Les premières distributions ont débuté dans la région de Tillabéri, dans l'ouest, proche du Mali et du Burkina Faso. 20 personnes soupçonnées d'être des islamistes radicaux Shebab ont été tuées et 8 policiers blessés après avoir lancé une embuscade contre des policiers dans le comté de Mandera, dans le nord-est du Kenya, près de la frontière avec la Somalie. Le mois dernier, les Shebab avaient lancé plusieurs attaques meurtrières dans l'est du Kenya. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a dénoncé les unités paramilitaires constituées illégalement depuis des années, selon lui, et représente un risque majeur pour l'unité du pays et le gouvernement fédéral poursuivra jusqu'au bout leur démantèlement. Le point avec Jean-Roger Bion.
Le démantèlement des forces spéciales est justifié. Elle pose un risque majeur pour l'unité nationale du pays. Cela a été prouvé au Soudan, a déclaré M. Abiy Ahmed devant la chambre basse du Parlement. Le gouvernement fédéral éthiopien a entamé début avril, sans préavis, une opération de démantèlement des forces spéciales non donné en Éthiopie aux unités paramilitaires mises sur pied, hors de tout cadre légal, par les exécutifs de nombreux États régionaux depuis une quinzaine d'années. Cette opération consistant, selon le gouvernement, à intégrer les membres de ces forces au sein de l'armée fédérale ou des polices régionales, a suscité une forte résistance et de violentes manifestations dans l'État de l'Amara. En Éthiopie, il n'y aura plus d'autres forces armées que les forces fédérales de défense, et la police et d'autres forces régulières de sécurité. Nous poursuivrons cette opération jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, a promis le Premier ministre, assurant qu'elle vise toutes les régions et non la seule Amara.
Au Soudan, des chefs tribaux arabes du Darfour appellent dans une vidéo à rejoindre les paramilitaires et à déserter l'armée, un appel susceptible d'exacerber le conflit ethnique dans cette vaste région dans l'état du Darfour Sud. Les chefs des sept plus importantes tribus arabes ont appelé lundi les membres de leur clan à rejoindre les forces de soutien rapide, en joignant ceux qui sont enrôlés dans l'armée à déserter pour passer à l'autre camp. La fracture ethnique se creuse dans cette région depuis le début de la guerre entre les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo et l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan. En Tunisie, la tension est vive dans la ville portuaire de Sfax depuis l'assassinat lundi d'un Tunisien qui aurait été tué par des migrants. Les migrants d'Afrique subsaharienne font état de représailles et d'expulsions massives. Alexandrine Rologne.
Au lendemain de la mort d'un Tunisien dans des heurts avec des migrants africains, des appels à la vengeance ont été lancés. Des habitants de Sfax ont dressé des barrages et avaient commencé à traquer des migrants. Puis les forces de sécurité ont déversé des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants à la frontière avec la Libye. Un homme de 29 ans originaire de la Côte d'Ivoire a déclaré qu'il faisait partie des quelques 600 migrants noirs bloqués sur ce qu'il appelle un no man's land entre la Méditerranée et la frontière terrestre avec la Libye. L'homme dit qu'il a été intercepté samedi soir alors qu'il attendait dans un refuge pour embarquer sur un petit bateau à destination de l'Italie. D'autres migrants ont été enlevés de leur domicile à Sfax au milieu de la nuit les jours suivants. Sfax est bondé de milliers de migrants africains qui cherchent à rejoindre l'Europe à bord d'embarcations de fortune. En février dernier, le président tunisien Kais Saied avait fait une sortie virulente contre ces migrants d'Afrique subsaharienne. Il avait déclaré que ces personnes faisaient partie d'un complot pour modifier la composition démographique de son pays.
17 personnes, dont 3 enfants, sont mortes dans un bidonville près de Johannesburg après une fuite de gaz que les autorités sud-africaines soupçonnent échapper d'eau bouteille utilisée par des mineurs clandestins. 11 personnes restent hospitalisées, certaines dans un état inquiétant.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, est arrivée à Pékin pour une visite dont l'objectif affiché est d'améliorer les échanges commerciaux déstabilisés par la rivalité croissante entre les deux puissances mondiales. Rosine Munezer.
Demain vendredi, Madame Yellen doit être reçue par le Premier ministre Li Qiang, s'entretenir avec l'ex-vice-premier ministre Li Yohan et participer à un dîner organisé par l'ancien gouverneur de la Banque centrale chinoise, Zhu Jianchuana, a indiqué sous le couvert de l'anonymat un haut responsable du Trésor. Ce voyage, prévu jusqu'à dimanche, est le premier en Chine de Janet Yellen depuis qu'elle est à son poste. Il intervient quelques semaines après celle de son collègue au département d'État, Anthony Blinken. L'objectif est d'étendre les moyens d'échange entre les deux pays, d'éviter les mauvaises interprétations réciproques et d'élargir la coopération sur des sujets liés à l'économie mondiale, le réchauffement climatique ou la crise de la dette dans les pays émergents et en développement, selon le Trésor américain. C'est aussi une occasion d'avancer vers l'idée d'un sommet entre les deux pays, le président Joe Biden ayant souligné qu'il avait bon espoir de rencontrer prochainement son homologue chinois Xi Jinping.
L'ex-assistant personnel de Donald Trump, Walt Nauta, inculpé pour complicité dans la gestion négligente de secrets d'État après le départ de l'ex-président, a plaidé ce jeudi non coupable devant un tribunal fédéral de Floride. Il plaide non coupable de tous les chefs d'accusation, a indiqué son avocat dans une brève audience à Miami. L'ancien président de 77 ans a lui aussi plaidé non coupable, mi-juin, des charges à son encontre et s'expose à un procès potentiellement dommageable pour sa campagne pour la présidentielle de 2024. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak aborde un été morose lors d'une audition par les chefs des commissions parlementaires mardi. Rishi Sunak a concédé que l'inflation plus persistante qu'anticipée. Les sondages donnent les travaillistes largement en tête des élections générales attendues l'an prochain. Autre dossier brûlant, la promesse de M. Sunak d'arrêter les bateaux de migrants qui traversaient la Manche et son gouvernement veut expulser vers le Rwanda, ce qui arriverait illégalement sur le sol britannique, mais cette mesure a été bloquée en appel fin juin. Rishi Sunak a demandé à saisir la Cour suprême. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez Nathalie Barge dans sa Minute Éco.
Au Cameroun, les producteurs bananiers ont exporté 15 624 tonnes de bananes en juin, soit une baisse de 14% en glissement annuel, selon l'Assobacam. L'entreprise publique agro-industrielle, la CDC, est la seule à avoir enregistré une augmentation de ses exportations le mois dernier à 34%. Les plantations Beau ont enregistré une baisse de 39% et le leader du marché, PHP, une baisse de 18%. La Banque africaine de développement a accordé 164 millions d'euros de prêts au Bénin pour la mise en œuvre du programme d'assainissement pluvial des villes secondaires visant à lutter contre les inondations. Une partie est financée par la Chine et le gouvernement béninois devra participer à hauteur de 13,79 millions. Les villes concernées sont Porto Novo, Ouida, Boïkon et Abomey. Les groupes financiers participant au forum de l'OPEP qui se tient actuellement à Vienne en Autriche se sont engagés à soutenir des projets verts. Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a appelé à mobiliser des investissements privés à grande échelle pour le développement durable et le directeur de l'Agence française de développement, Rémi Riou, a suggéré de redéfinir le financement du développement.
Et sans transition, nous passons à votre page sport avec Yakuba Ouedraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Kylian Mbappé en visite au Cameroun natal de son père.
Oui, l'attaquant star du Paris Saint-Germain a été ovationné par des centaines de fans ce jeudi à son arrivée à l'aéroport de Yaoundé. Kylian Mbappé a salué une centaine de danseurs traditionnels qui se produisaient à son arrivée. Il va visiter le village de Yannick Noah, l'ancienne star du tennis français qui a élu domicile à Yaoundé et fait partie des organisateurs de la venue de Mbappé. Il va aussi visiter demain vendredi l'école d'enfants sourds et malentendants de la Fondation pour l'éducation et la promotion des personnes déficientes auditives dans la banlieue de la capitale. Puis il prendra part à un match de basket Mbappé contre Joachim Noah. Dans l'après-midi, il participera à un match de football contre le FC Vente d'Etoundi, club de deuxième division camerounaise, présidé par Yannick Noah. Samedi à Douala, dans le sud, Kylian Mbappé doit visiter une école, puis non loin le village de Guébalé, celui de son père Wilfried Mbappé, né à Douala, mais qui a quitté très tôt le Cameroun pour la France, où il a été entraîneur de football.
Arda Güler signe au Real Madrid.
Le jeune milieu de terrain turc de Fenerbahçe a signé un contrat en faveur du Real Madrid pour les 6 prochaines saisons jusqu'en 2029. L'annonce est faite par le club espagnol. Le montant du transfert n'a pas été communiqué, mais la presse espagnole évoque 20 millions d'euros et des bonus atteignant 8 millions d'euros en faveur du club d'Istanbul. Arda Güler fait sensation dans le football turc depuis un an et demi, où il est souvent comparé à l'Allemand d'origine turque, Mesut Özil. Son ancien coéquipier à Fenerbahçe, Güler, est la cinquième recrue du Real Madrid lors de ce mercato après les signatures de l'attaquant Rossellou, du milieu de terrain anglais Jude Bellingham, du défenseur Fran Garcia et du retour de Brahim Diaz.
Yakuba, le jeune Turc va évoluer sous les ordres de Carlo Ancelotti, le prochain sélectionneur du Brésil.
L'entraîneur italien sera le sélectionneur du Brésil dans un an, une fois son contrat avec le Real Madrid arrivé à terme. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP une source de haut niveau de la Confédération brésilienne de football. La venue prochaine de Carlo Ancelotti au pays de Pelé met fin à des mois de négociations entre l'entraîneur italien et le patron de la Fédération brésilienne de football, Hernaldo Rodriguez. Ce dernier a toujours considéré l'italien comme son option privilégiée pour relancer une Seleção en quête d'un second souffle. Après avoir accumulé les revers, Ancelotti est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'à juin 2024, où il a dit publiquement qu'il souhaite continuer jusque-là. Il prendra les rênes de la Seleção à partir de la Copa América 2024, prévue l'an prochain ici aux États-Unis, du 20 juin au 20 juillet 2024 donc.
C'est tout pour les sports. Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakidza, de retour avec vous pour les dossiers du jour. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, est arrivée ce jeudi à Pékin pour une visite de 4 jours destinée à redéfinir les relations entre les 2 premières puissances économiques mondiales. Le déplacement de Janet Yellen intervient quelques semaines après une visite du secrétaire d'État Anthony Blinken qui a convenu avec le président Xi Jinping que la rivalité entre les 2 puissances ne devait pas tourner au conflit. Pour les enjeux de cette visite, Jean-Roger Bion a joint l'analyste Kamissa Kamara de l'Institut américain pour la paix.
Il s'agit d'abord de 2 premières puissances économiques mondiales qui se concertent parce qu'elles ont des intérêts à préserver en commun. Et effectivement, il y a une rivalité dans le fond qui ne dit pas son nom. Mais cette rivalité, que ce soit sur le plan économique, militaire ou politique, doit s'aplatir. Et effectivement, ces visites-là s'inscrivent dans le cadre du renforcement des relations entre ces 2 premières puissances économiques mondiales et surtout l'apaisement des tensions diplomatiques qui existent.
Alors, des tensions, vous l'avez dit, persistent à tous les niveaux entre Pékin et Washington, les États-Unis reprochant au niveau économique, par exemple, des pratiques déloyales. Quelle serait la bonne approche pour Janet Yellen pour vaincre sans périr?
Taïwan étant un partenaire privilégié des États-Unis, même si les États-Unis n'ont pas de relations diplomatiques officielles avec Taïwan, c'est relations qui sont plutôt économiques et non officielles sont quand même assez fortes. Et donc, il s'agit, je pense, pour les États-Unis d'insister sur la question diplomatique pour ensuite résoudre ces problèmes économiques de fond. Je pense que ces visites que Anthony Blinken et Janet Yellen viennent de conduire vers Pékin ne vont pas résoudre du jour au lendemain les tensions entre les deux pays, mais elles serviront sans doute à montrer la bonne foi des États-Unis à travailler de pair avec la Chine pour ensemble rivaliser, mais sur des termes assez justes et équitables entre les deux pays.
Ce ballet diplomatique à Pékin, on le présume, prépare une rencontre entre les présidents Xi Jinping et Joe Biden. Est-ce qu'au-delà de la rivalité entre les 2 puissances, il est possible de trouver un point d'accord pour éviter un déraillement dommageable pour tous?
Je pense qu'il est de l'intérêt et de la Chine et des États-Unis de trouver un point d'entente. Je pense qu'il est très facile d'oublier que la Chine et les États-Unis sont 2 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc sur le plan mondial, on a vraiment affaire à 2 éléphants qui se battent. Et donc, il est dans l'intérêt de ces 2 éléphants-là de trouver un terrain d'entente, de trouver un accord. Et encore une fois, c'est vraiment dans l'intérêt de ces 2 pays-là de trouver un accord et d'aplanir leur rivalité.
Kamissa Kamara, conseillère principale à l'Institut américain pour la paix, USAP. Les habitants du camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie occupée rentrent chez eux après un raid de 2 jours mené par les forces israéliennes qui a fait 13 Palestiniens tués et un soldat israélien. Israël a retiré ses troupes mais a affirmé qu'il mènera d'autres opérations si nécessaire pour éradiquer le terrorisme. Les autorités sanitaires palestiniennes accusent l'État hébreu d'avoir ciblé les hôpitaux pendant ce raid. Cindy Sen de la VOA fait le point, le récit avec Yacouba Ouedraogo.
Les habitants du camp de réfugiés de Jenin ont constaté des dégâts considérables lorsqu'ils sont sortis de leurs abris ou de leurs maisons mercredi après la plus grande opération militaire israélienne depuis près de 20 ans en Cisjordanie occupée. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a affirmé que les forces israéliennes visaient des terroristes.
Les combattants israéliens sont arrivés à des dizaines d'endroits où les terroristes de différentes organisations de Jenin avaient installé une usine de production de terreur. Avec charges, munitions, divers types d'armes, à partir de cet endroit, ils ont semé la mort dans toute la Cisjordanie et au-delà de la ligne verte.
Un expert a déclaré à la VOA que Jenin était depuis longtemps un bastion des groupes militants palestiniens. Brian Katulis est vice-président du volet politique de l'Institut du Moyen-Orient. Il s'est entretenu avec la VOA via Zoom.
Il s'agit de milices qui ne sont pas affiliées à certaines des principales factions palestiniennes et qui représentaient une grave menace pour l'ordre public. Non seulement une menace terroriste pour les Israéliens, mais aussi un défi pour les civils palestiniens ordinaires. Et cette action des forces de défense israéliennes, je pense, a été perçue par certains comme une réponse à des menaces tout à fait légitimes.
La ministre palestinienne de la Santé, Mai Al-Kaila, accuse les forces de défense israéliennes d'avoir attaqué des hôpitaux lors du raid.
Depuis le début de leur raid, les forces d'occupation ont attaqué l'hôpital gouvernemental de Jenin, blessant grièvement des citoyens qui s'y trouvaient. Elles ont aussi tiré à plusieurs reprises sur l'hôpital Al-Amal, blessant un citoyen qui s'y trouvait. Cet après-midi, elles ont pris d'assaut la cour de l'hôpital spécialisé Ibn Sina, avec des véhicules blindés. Elles ont délibérément bloqué les ambulances et leur équipage à Jenin et les ont empêchés d'atteindre les blessés. Le monde entier a vu les forces d'occupation tirer sur les ambulances et leur équipage et les empêcher de soigner les blessés.
L'ONG Refugees International et d'autres groupes de défense des droits de l'homme ont appelé l'armée israélienne et les groupes militants palestiniens à cesser l'escalade de la violence et toute attaque contre des civils. Ils ont déclaré que l'utilisation par Israël de forces aériennes contre le camp de réfugiés près de Jenin, densément peuplé, est à la fois troublante et disproportionnée.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Depuis mardi, un événement international dénommé Synergie Sûreté, Sécurité et Défense soutient à Ouagadougou au Burkina Faso. Dans un contexte de lutte contre le terrorisme, ce salon rassemble l'ensemble des corps militaires et paramilitaires ainsi que les agences de sécurité du privé. Cet événement offre un espace d'exposition, d'échange et de réflexion aux différents acteurs engagés dans la lutte contre l'insécurité. Notre correspondant sur place, Lamine Traoré, nous fait découvrir cette manifestation sans précédent à Ouagadougou.
Nous sommes ici à la salle d'exposition du Salon international Synergie Sûreté, Sécurité et Défense. Les professionnels de la sécurité et de la défense sont présents. Les dernières technologies, des solutions pour un système de sécurité et de défense sont proposées. Des accessoires, de l'équipement militaire aussi sont exposés. Hamadoun Diko, PDG de la société Sevens A, exposant.
Nous faisons des équipements de protection individuelle en ce qui concerne les unités, les unités spéciales, les commandements sur le terrain, au niveau aussi des campements, les camps, les équipements sur le terrain de front, les matériels roulants. Nous travaillons aussi à innover et là nous avons des solutions que nous proposons. Les solutions, c'est des systèmes de surveillance du territoire, des systèmes de la maîtrise de l'information au niveau aérien et terrestre.
Aristide Kambo, responsable de la société Africa Distribution, une centrale d'achat internationale.
Aujourd'hui, nous proposons essentiellement deux solutions au service de nos armées.
Exposant.
La solution radiophonique et téléphone par satellite et aussi les drones. La solution radiotéléphonique permet à nos armées, lorsqu'elles se déploient en terrain ennemi ou pour la reconquête du territoire, de pouvoir garder le contact avec leur base. Les drones permettent de faire la surveillance sur les territoires où nous n'avons pas de présence militaire.
Catherine Delmas, dirigeante de la société Technique Export.
Nous avons déjà fourni des boulangeries mobiles de campagne, des cuisines mobiles de campagne pour les militaires sur le terrain qui font du pain et de la cuisine en toute autonomie et sur tous les terrains.
Les initiateurs de ce salon ambitionnent développer l'industrie nationale de la défense et de la sécurité. Yassine Zouré, promoteur du salon Synergie Sûreté, Sécurité et Défense.
Ça permet à nos forces de défense et de sécurité, le plus grand nombre, je dis bien le plus grand nombre, de pouvoir découvrir des équipements, des fournisseurs internationaux, nationaux. Parce que derrière cela, nous souhaitons vraiment stimuler le développement de l'industrie nationale de la défense et de la sécurité. Vous allez retrouver aussi l'espace des jeunes innovateurs. Là, vraiment, je vais dire que c'est le cœur même de l'activité parce que vous allez retrouver des jeunes, des universitaires qui sont en train de plancher dans le hackathon que nous avons organisé et qui réfléchissent sur des solutions de sécurité et défense.
Au moins une quinzaine de sociétés africaines, européennes et asiatiques prennent part à ce salon. On peut citer entre autres des participants venus du Nigeria, du Mali, de l'Égypte, du Togo, de la France et de la Chine. Les salons s'achèvent aujourd'hui. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Pendant les grandes vacances au Sénégal, les jeunes bénéficient souvent d'une plus grande liberté, se précipitent vers les plages. Mais à Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar, se baigner comporte souvent des risques. Les mesures de surveillance et de restriction ou d'interdiction sont quasiment inexistantes, ce qui entraîne une augmentation du nombre de décès par noyade. Notre correspondant à Dakar, Seydina Bagay, donne un aperçu de la situation. Suivez.
C'est avec une insouciance déconcertante que cet enfant, âgé d'une dizaine d'années, se jette à l'eau sans aucune surveillance. Comme lui, des centaines d'enfants sont venus se baigner sous le regard médusé d'Aziz Barre, ce riverain s'émeut du nombre de jeunes qui fréquentent cette plage de Guédiawaye, qui est pourtant réputée très dangereuse.
Comme il fait chaud durant cette période, nous voyons les jeunes de la banlieue déferler sur cette plage par centaines. Ce sont des enfants qui ne sont pas riverains de la plage et qui viennent souvent sans être forcément accompagnés par des adultes et sans savoir nager. Ils viennent se baigner sans connaître la plage ni les zones dangereuses.
À la question de savoir s'il y a des maîtres nageurs, Aziz Barre est catégorique.
Non, il n'y a pas de maître nageur ni de personnel de surveillance qualifié. C'est chacun pour soi. Des fois, nous essayons de rappeler les jeunes à l'ordre, mais ils te disent carrément que tu n'as aucune autorité qui te permet de les limiter. Certains vont même jusqu'à te manquer de respect. Malgré cela, des fois, nous les riverains, nous nous mobilisons pour empêcher certains enfants de bas âge d'entrer dans l'eau. Mais à part ça, il n'y a aucune sécurité, aucun maître nageur.
De son côté, Pape Ndiaye constate une absence totale des forces de l'ordre qui empêchait les baignades dans certaines zones dangereuses. Pour lui, la situation actuelle du pays fait que certaines choses passent au second plan.
L'État est occupé par la question du troisième mandat qui aspire à toutes les ressources. Sur cette plage, il y avait des campagnes de prévention et même des tableaux d'avertissement. Mais cette année, rien de tout ça n'a été fait. Déjà, avec ces mesures préventives, il y avait beaucoup de morts. Imaginez maintenant ce qu'il peut se passer sur cette plage avec tout ce monde et sans aucune sécurité.
Les enfants et adolescents ont une grande liberté pendant les vacances scolaires. En ces temps de chaleur, beaucoup se dirigent vers des plages souvent interdites à la baignade pour passer du bon temps. Et sur les côtes sénégalaises, particulièrement au nord de Dakar, entre Yoff et Guédiawaye, ce sont des drames à répétition chaque année. Seydina Abadi.
Voilà, c'était pour terminer en beauté, morceau choisi par Michel Claire Joseph qui assure la mise en onde. Une composition de Selima Gomez. C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Eric Manilakiza à ce micro. Michel Claire Joseph assure la mise en onde. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur votre site internet voafrique.com, sur nos pages Facebook, YouTube, Twitter, Instagram.